Subito Radio 1 dans mon atelier, Gabrielle Chiari, en présence de Sylvain Roche et Jérôme Boutrin.
Bon, en fait, je vais décrire un peu ce qu'on voit. On voit un cercle gris qui est en train de sécher sur une feuille de papier aquarelle au sol. Un cercle de 60 cm de diamètre qui a été réalisé avec un pochoir. Et là, on observe en fait le retrait successif de la couleur, son évaporation. Et ça va durer environ une journée pour que le séchage soit complètement effectué. C'est le séchage qui produit le dessin. C'est un gris qui s'appelle gris et sénelier. Et je l'ai choisi parce qu'il a plein de nuances. Il a du bleu et un gris un peu marron, et quand cette couleur est fortement diluée, les pigments se décomposent au cours du séchage et s'inscrivent à différentes vitesses sur la feuille de papier. Donc on observe des bordures plutôt sombres, on a la composante marron qui se dépose. Dans les surfaces où il n'y a pas trop de charge de couleur, on voit apparaître la teinte légèrement verte et ensuite une composante plutôt bleutée qui dessine des sortes de franges au fur et à mesure où le liquide s'évapore.
On disait que le rouge...
Enfin, du coup, le dessin final, en fait, tu le vois vraiment à la fin, quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'une apparition sur la fin. En fait, il y a une part de hasard dans ton travail un peu.
Il y a une grande part de hasard. Et on peut comparer ici, il y a un essai qui est en train de sécher au sol, où il y a une flaque totalement homogène, lisse, où on ne voit pas encore du tout de dessin à l'intérieur. Et au mur, on voit l'essai précédent qui est assez chargé, avec un dessin un peu marbré, avec des lignes aussi qui se produisent quand la feuille de papier gondole, qu'elle fait des plis. Et la hauteur des plis a marqué ici une verticale assez nette. Et c'est sur les hauteurs du pli se dessine une ligne un peu dentelée, assez prononcée. Et cette partie-là du dessin, je n'ai pas de maîtrise sur la question. Je peux peut-être avoir une petite influence sur la tension du papier. Si je le tends beaucoup, ces lignes vont apparaître moins. Si je le tends assez peu, il y aura plus de chances d'avoir ces lignes. Et généralement, elles apparaissent à la verticale et ça, c'est lié à la structure du papier. Si on regarde l'ensemble des aquarelles, on peut voir que souvent, les lignes qui résultent des plis, elles sont verticales.
Mais pas les deux violets.
Les deux violets sont deux cercles réalisés avec des pochoirs aussi. Et il y a moins de couleurs que j'ai appliquées. En principe, c'est deux gestes qui remplissent chaque cercle. J'ai essayé la même charge de liquide sur le pinceau et c'est uniquement ce dépôt-là qui crée la charge. Et il est vrai que le dessin qui va un peu vers le haut, c'est la superposition des traits de pinceau. C'est l'endroit où il se recouvre qui fait ce dessin-là.
Et on peut le voir, le pinceau ?
Le pinceau, on peut le voir, le décrire. C'est un pinceau de type oriental, pinceau plat, de 3 cm de large, avec du poil de chèvre.
T'en as un ?
Oui, un seul, ça suffit. Oui, oui. Oui, parce qu'il faut le faire, le pinceau, pour qu'il ne perde plus de poils. C'est pour ça qu'il y a aussi toujours une pince à épiler à l'atelier, pour aller chercher les poils dans les flaques d'eau. Parce que les pinceaux en perdent toujours un peu. Et ça peut vraiment gêner le motif si un poil s'oppose au dessin.
Mais tu en as d'autres en réserve ?
Un deuxième que j'ai ramené de Corée. Mais
c'est coréen ? plutôt.
Oui, celui-ci, oui. Ça, je crois, c'est chinois, mais ça fait déjà 10 ans que je l'ai.
Celui-là, pour le décrire, ça fait quand même une brosse de 20-25 cm de large.
Oui, oui.
Moi, j'ai rarement vu des pinceaux asiatiques comme ça. Enfin, sur des... On a plutôt l'habitude d'en voir des... Tu vois ce que je veux dire, plus classique, enfin comme des...
Oui.
Je sais pas comment on appelle ça, que de morue. Mais rarement des splatters comme ça. Je savais pas.
Il est très bien parce qu'il permet une application assez homogène de la couleur. Parce que l'idée est de très peu voir mon geste à moi. Et mon geste, il est juste au service de l'aquarelle, c'est-à-dire je vais recouvrir une surface. Par exemple, là, si on regarde, il y a au mur une aquarelle avec une bande bleue sur le côté droit. La bande bleue fait 23 cm de large, donc c'est pile la largeur du pinceau. Et ça a été un seul geste qui a recouvert la bande bleue. Un geste du bas vers le haut, je pense, avec pas mal de couleurs. Et le dessin qu'on voit à l'intérieur, c'est je ne sais pas comment vous décrirez le dessin sans avoir recours au vocabulaire figuratif.
Une ellipse, enfin une demi-ellipse.
Une demi-ellipse.
À l'intérieur, il y a une ellipse dans une demi-ellipse. Deux demi. Vas-y.
Je reprendrai un peu ce qu'on s'était dit la dernière fois, on dirait des mains en fait, de Philippe Guston, en fait, quelque chose comme ça, une espèce de gros doigt. Enfin, c'est vrai que c'est. Quand on sait que c'est juste un trait de pinceau, enfin, s'il y a toute une magie qui apparaît en fait à l'intérieur.
Voilà, il y a un trait de pinceau et je crois me souvenir qu'après j'ai versé un peu de couleur en plus sur cette surface pour la charger davantage. Parce que la couleur que le pinceau peut, comment dire, charger, c'est pas énorme en termes de quantité de liquide. Et pour obtenir un dégradé, ici ce sont des bleus, il faut pas mal de liquide pour jouer sur cet effet de séparation des pigments et de lignes très foncées qui se dessinent comme contour. Il y a des endroits plus clairs. Et au creux de la flaque, il y a le dépôt des bleus intermédiaires pour cette pièce. Oui, parce que ce qui est important pour moi, c'est que mon geste n'est pas une expression particulière. Il recouvre, il remplit, il est assez neutre. Et après, c'est le travail de la couleur, du papier, qui est plus expressif, si on peut le dire.
Tu vois, il faudrait qu'on parle de cette notion de couleur, en fait. De ce que tu m'expliquais la dernière fois, c'est qu'au final, c'est la couleur qui est le début, en fait, de chaque travail.
Oui, oui. Par exemple, après notre dernière discussion à l'atelier, je m'étais dit pour redémarrer quelque chose, il fallait que j'aille acheter des couleurs. Donc je suis allée acheter des tubes d'aquarelle et la première étape consiste toujours à les tester. Donc je les mélange toujours avec une recette très simple, c'est une noisette de couleur et un verre d'eau. Pour tester un peu comment elle se comporte. Et après, je l'étale avec le pinceau. Je fais une bande sur le dos d'une aquarelle ratée pour observer un peu son comportement. Donc ici, sur ce test de couleur, on a un vert jaune. On a le fameux gris sénelier à qui j'ai trouvé pas mal de propriétés intéressantes justement avec cette séparation des différentes teintes qui le composent. Puis j'ai acheté un rose qui s'appelle Potter's Pink avec un dépôt assez chargé et des auréoles couleur chair, on peut dire, et un rouge violet qui a de très belles bordures extrêmement sombres. Et donc, à partir de cet essai de couleurs, En fait, les quatre couleurs me plaisent beaucoup. Donc, j'essaye de trouver un procédé spécifique à chaque couleur qui va mettre en valeur ce qui se passe. Donc, pour le vert, pour le gris sennelier, dont on vient de parler tout à l'heure, je me suis dit que ce cercle avec ce grand bain de couleurs où à l'intérieur il y a pas mal de dessins qui se produit, ça serait bien. Pour le rouge violacé, qui a un pouvoir dessinateur très fort, je me suis dit que ce serait bien de mettre la feuille en relief. Ça, on le voit au fond de l'atelier. J'ai sculpté la feuille de papier à l'eau pendant 2 jours, c'est-à-dire que j'ai mouillé des parties, laissé d'autres sèches, ça c'est au dos de la feuille, pour obtenir un relief gondolé. Et puis j'ai superposé une deuxième couche uniquement à l'eau pour travailler encore plus le relief. Et donc là, on a de grandes formes un peu organiques qui sont comme de petits lacs, de petits creux qui accueillent la couleur. Donc l'idée, c'est de faire dessiner des formes extrêmement chargées en couleurs. Et ici, l'idée, c'est pour obtenir une densité beaucoup plus forte que d'habitude, de superposer 2 couches, peut-être 3. Donc ça, c'est à l'état d'expérimentation. Pour le rose, j'ai essayé de travailler par bande. On peut le voir ici au sol, mais je ne suis pas du tout satisfaite du résultat que je trouve kitsch. Donc, il faudra trouver une autre piste.
Parce qu'il y a un vrai travail entre la forme et la couleur. Chaque couleur a, entre guillemets, une forme qui lui est plus propice ou...
Une forme ou un procédé. C'est vrai qu'au départ, je voulais toujours faire des formes complètement différentes. Et avec maintenant 18 années de pratique, je me rends compte que c'est pas possible. Et du coup, on voit aujourd'hui à l'atelier qu'il y a pas mal de cercles. Parce que l'idée est de travailler avec des formes simples qui... n'est pas une signification particulière. Donc, on voit des cercles, on voit des pièces divisées en 2 horizontalement ou des rayures verticales. Donc, c'est un répertoire de formes assez simple, avec quand même l'idée de toujours varier, essayer de pousser pour obtenir des choses différentes.
Mais ton rapport de l'inscription d'une forme dans la surface laissée, pas peinte. Parce qu'il y a quand même, par exemple, je remarque souvent que le cercle est dissymétrique dans la surface. Là, il y a sur d'autres, sur ta forme, elle n'est pas. Elle s'inscrit sur une. Oui, sur une surface. Mais il y a une décision assez précise là.
Oui, elle est totalement intuitive et l'emplacement de la forme. Dans le format, elle se développe au fur et à mesure des essais. J'essaye de trouver l'emplacement qui me paraît le plus juste. Aussi, par exemple, en termes de poids de la forme. Ici, je connais l'inclinaison du sol dans l'atelier. Et j'oriente la feuille de papier de façon à ce que dans cette pièce-là, la charge plus forte... de couleur sera en bas de l'œuvre définitive, et c'est pour ça qu'il faut orienter la feuille ici côté fenêtre, parce que le sol descend par là. Donc en séchant, le dessin va se rétracter vers le point le plus bas du cercle. Donc je joue un peu avec le poids à l'intérieur de la forme même. Et c'est pour ça, comme le poids est en bas, cette forme-là, elle est un peu plus en bas dans le format. Et l'orientation du dessin, elle peut aussi se décider à la fin. Je regarde quel côté est le plus parlant visuellement.
Mais c'est vrai qu'il y a énormément de non-peints dans ton travail. Enfin, il y a quelque chose de non-peint, et tu nous expliquais tout à l'heure, il y a aussi quelque chose de peint avec juste de l'eau.
Oui.
Donc, tu pourrais nous en parler, en fait, de ce côté très minimal, on va dire, des choses, enfin très belles, du coup, hein, ça rend des choses très poétiques.
C'est difficile d'en parler, mais l'idée, c'est d'être un peu en retrait par rapport à ce que je mets en route comme procédé. Et de créer des circonstances qui permettent à la couleur de travailler, qui permettent au hasard de jouer un rôle considérable, mais que je recadre après en regardant et j'adapte les conditions de l'expérimentation par la suite pour mieux l'accueillir ou pour le guider un petit peu. Oui, en fait, c'est toute une mise en œuvre pour ne pas dire des choses moi-même avec le pinceau. Et ça, je ne sais pas pourquoi. J'aime bien créer des circonstances qui produisent des formes.
Du coup, pour répondre à cette question où il y a une disparition de l'auteur en quelque sorte, c'est quoi ton rapport à l'image en fait, du coup, vu qu'il y a disparition de l'auteur, quasiment pas de narration, donc du coup ça serait ton rapport un peu à l'image ou...
Je sais pas très bien le rapport à l'image, parfois j'emprunte des formes, des formes géométriques, des compositions extrêmement simples.
Empreintes ? Tu les empruntes ?
Je les emprunte, par exemple, à des logos que je vois dans l'espace public.
Mais quand tu parles d'emprunter ces formes, c'est la forme dans laquelle va être contenue l'encre ou c'est la forme que l'encre va prendre ?
Non, c'est uniquement le contour que j'emprunte quand je vois. Ça peut être un tableau aussi. Je me dis, tiens, je vais le composer en deux parties. C'est des déclencheurs extrêmement simples.
Donc, ce que tu dis que tu empruntes, c'est plutôt le territoire sur lequel... Enfin, pour m'expliquer, c'est
oui.
Par exemple, ici, c'est le cercle... Là, ça va être un système en deux bandes.
Oui.
Mais c'est ça.
Oui.
C'est pas ce qui se produit à l'intérieur de la surface.
Ce serait pas possible, oui. Je crois, de l'emprunter, oui. Parce qu'on ne sait pas ce qui va
se
passer.
Je crois.
Oui. Donc, si on parle de ces deux bandes, oui, il peut y avoir un rapport au paysage. Et oui, je peux emprunter peut-être le geste à une photo de paysage, à des nuages, mais ça va rester assez, comment dire, c'est pas du tout le premier plan.
C'est plus l'ordre d'une image un peu mémorielle, d'un souvenir, de choses comme ça, enfin, d'une impression d'un quelque chose que tu aurais vu ou...
Oui.
Enfin, c'est ce que je trouve assez, assez fascinant, c'est cette rigueur d'une géométrie parfaite, avec ce côté de l'encre et de ce hasard qu'on ne peut pas contrôler en fait. Je trouve que c'est cette tension en fait qui naît entre un dessin très géométrique et donc du coup un autre dessin fait par l'encre qui est très organique. Et en fait c'est cette confrontation en fait des deux qui est assez, assez surprenante sur un point de vue dessin et la couleur en plus derrière qui vient renvoyer encore autre chose.
Oui, ça fait plaisir que tu parles de cette tension parce que je crois qu'elle est importante. Il faut qu'il y ait beaucoup de précision et beaucoup de maîtrise pour que le côté aléatoire de la couleur et de son dessin non prévisible marche. Et parfois on me dit que je suis trop difficile parce que je fais beaucoup beaucoup d'essais pour obtenir une œuvre. Mais je crois que c'est vraiment important pour que cette tension soit vraiment juste. Pourquoi le cercle ici au sol, je crois qu'il est bien,
parce que c'est au moins le dixième que je fais et j'ai intégré la façon de faire. Maintenant, je n'ai plus de besoin de réfléchir parce que à chaque fois, si je suis concentrée, je l'exécute avec encore plus de maîtrise. Et cette maîtrise-là, je crois qu'elle est importante pour que ce peu de choses qu'il y a soit suffisamment précis. Et parfois, ça peut être le premier essai, mais c'est assez rare. Et c'est un équilibre assez fin entre la forme, la dilution de la couleur, son application. Les gestes comptent un peu quand même, parce qu'en fonction des propriétés, il faut l'appliquer vite ou il faut éviter des recouvrements, parce que il y a des couleurs que lorsqu'on pose une bande et on revient dessus, le pinceau retire le pigment. Donc là, il y a un peu de savoir-faire, si j'ose dire, ou du travail de la main, et un travail de peintre quand même, qui vient de la connaissance de la couleur. Et oui, c'est un équilibre que l'on sent après dans l'aquarelle réussie.
Ce qui m'étonne, c'est que c'est quand même l'aspect final, il est très dense avec le plexiglas transparent ou le verre, enfin le mode de présentation. Finalement, on parle de quelque chose qui peut peut-être sembler très léger, justement avec comme une sorte de déprise, y compris de la peinture, de la façon de la faire. Mais à la fin, on dirait que ça se solidifie comme une sorte de pierre, enfin de choses très bloc, puisque j'ai devant moi les dessins, mais qui sont, je ne sais même pas si on peut dire qu'ils sont encadrés, tu peux nous en parler ?
Ils sont, oui, on peut dire qu'ils sont encadrés en plexiglas, mais l'ensemble de l'encadrement est en plexi, même les côtés, justement pour que l'œuvre ne soit pas enfermée par des baguettes. Et le côté froid du matériau était important pour moi au moment où je l'ai choisi, pour ramener l'aquarelle à quelque chose d'un peu plus sobre, de lui retirer ses qualités sensibles ou conventionnelles. Donc oui, c'était volontaire d'associer un matériau industriel froid. Et c'est vrai qu'une fois que les aquarelles sont encadrées et au mur, étonnamment, elles ont une présence beaucoup plus forte que ce qu'on peut penser quand on les voit se faire au sol où il n'y a presque rien de couleur, en train de travailler.
Non, c'est sûr, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, je suis d'accord avec Jérôme. Parce que du coup, on regarde au sol et on a l'impression de regarder une flaque. Et c'est vrai qu'une fois encadré et mis au mur, c'est vrai qu'on a ce côté pierre, sédiment. Enfin, on a vraiment l'impression. Ouais. Et du coup, c'est de voir cette transition de quelque chose d'extrêmement léger, fugace, pour arriver à quelque chose de très dans le sédiment, quelque chose. Enfin, c'est assez beau. J'aime beaucoup.
Oui, là, c'est assez chouette aujourd'hui de voir différentes étapes d'une même pièce, parce que laisser au sol, il est tellement pur, il n'y a tellement rien, c'est juste une flaque ronde assez parfaite où on n'a pas encore d'idée du tout du dessin à venir, et au mur on a un dessin très, très chargé, trop chargé d'ailleurs, à mon goût. C'est pour ça que je le refais en essayant de le faire un peu plus léger. Et puis on a d'autres œuvres du même type de procédé qui sont encadrées, et où l'équilibre est juste, selon moi, par exemple, si on regarde le cercle rouge, et qui s'affirme assez bien.
Et si je te dis qu'il y a une sorte de rite à l'œuvre dans ton travail, ça te...
Un rite de quelle sorte?
Ben, je ne sais pas si la définition d'un rite, serait... il y a quand même des répétitions, des... il y a une préparation, non, il y a une préparation, il y a une répétition, il y a une mise en condition. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un objectif sûrement au rite. Il y a quand même la façon de le produire. Quand on parle, ça a quasiment autant d'importance. Tout a de l'importance, y compris le résultat, mais la façon de le produire, dans son aspect, si j'utilise le mot rythme, mais avec beaucoup de précautions, peut-être c'est un peu provoquant, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même des règles.
Oui.
Comme des règles.
Oui, il y en a beaucoup. J'essaie même.
Justement, c'est. Enfin, pardon, excuse-moi, après, mais comme cette sorte de règle par rapport au dessin chargé qui est trop chargé, comme s'il fallait lui enlever quelque chose.
Oui, non. Il y a beaucoup de règles et certaines m'empêchent d'avancer. Donc là, j'essaye de réfléchir comment retirer des règles. Donc j'ai brisé une règle, par exemple, c'était une pièce, une couleur. Là, on voit une pièce avec une légère différence de teinte. Il y a deux types de verre très légèrement différents sur une feuille. Mais oui, il y a des répétitions dans la préparation du papier. Il faut le découper, le mouiller, le tendre. Ça prend du temps. Après, dans la façon de commencer une pièce, c'est-à-dire de chercher sa couleur, de chercher son procédé, de recommencer le tout une dizaine de fois en général. Oui, là on peut y voir quelque chose de rituel. Il faut un état d'esprit assez neutre aussi. Il faut ni être trop fatigué, ni trop content, ni trop mécontent. Il faut être assez disponible et concentré. Justement, pour exercer les gestes avec précision, pour ne pas se perdre, et pour être disponible, parce qu'on n'a rien, c'est raté. Parce que le geste de peintre, au sens de l'application de la couleur, il dure quelques secondes, et c'est dans ces quelques secondes que ça se joue. Il y a beaucoup de choses, et ces gestes-là doivent être maîtrisés, doivent être justes. Quand je travaille avec les pochoirs, c'est très facile de rater une étape, si la couleur coule sous le pochoir ou si on le retire et ça fait des gouttes horribles, c'est dommage, il faut recommencer. Et parfois, comme par magie, ça marche, toutes les étapes ont été bien réalisées et le hasard met du sien et ça évolue dans le bon sens. Donc, je crois que c'était le cas ce matin. Ça, c'est des moments assez heureux. Oui, donc ça tient sur peu de choses et c'est pour ça qu'il y a toute cette mise en route et cette intériorisation de ce qu'il y a à faire pour que le moment précis, il n'y ait presque pas à réfléchir et juste à être présente et faire. Et les règles, ça vient un peu de ma formation à l'École des Beaux-Arts, je pense, de l'enseignement de Piferiti. Ce que j'en ai retenu était de se donner soi-même un peu un cadre d'expérimentation et de définir un ensemble de marqueurs pour le travail et un ensemble de bornes ou de règles justement à l'intérieur desquelles on expérimente. J'aimais beaucoup cette idée de la règle. Mais maintenant il faut assouplir et ouvrir parce que ce qui est possible d'expérimenter à l'intérieur des règles posées jusqu'à présent, je crois que ça a été pas mal tâtonné. Donc là il faut essayer de trouver de nouvelles possibilités pour développer le travail. Donc ça peut être le nombre de couleurs,
le nombre de couches m'autorisait à revenir sur une aquarelle avec la tentative là au sol en rouge superposée, deux couches.
Une fois sèche, la première couche ?
Oui, oui, oui. Ça crée des choses assez intéressantes parce que la couleur n'adhère pas sur les auréoles foncées de la première couche. Et du coup, le dessin devient de plus en plus complexe et il y a de nouvelles réserves qui s'ajoutent.
Oui, là, ce qui a été testé, c'est le papier est d'une certaine façon préformé, un peu comme une topographie.
Oui.
Donc déformé.
Oui.
Et après, le pinceau est passé.
Oui. C'est pas nouveau dans le travail. Il y a déjà eu plein de façons de façonner le support, de le mettre en relief. Ça peut être de jouer sur la tension de parties qui ont été travaillées à l'eau, qui gondolent, qui bougent, et d'autres qui ne s'étendent pas. Donc ça fait des creux et des montagnes, si on peut dire. Et toi, j'ai perdu le fil. Ça permet en fait de déterminer où la couleur va se déposer. Et c'est une autre façon de créer du motif. C'est du all over, du coup, parce que le pinceau, il va recouvrir l'ensemble de la feuille. Et du coup, on a des formes organiques où je ne dessine pas des contours parce que c'est les creux du relief accidenté qui vont accueillir la couleur. Et ici, c'est l'idée de jouer sur l'évolution justement du relief de la feuille au fil des applications d'eau et puis après de couleur.
Alors c'est là où moi j'ai besoin encore d'une explication. Il y a de l'eau et après de la couleur.
Oui,
c'est
l'eau.
Le papier, il est humide.
Non, il y a toujours un séchage. Il y a une première application de l'eau à certains endroits, ça sèche, parce que c'est uniquement à l'état sec que le relief est solide et qu'il reste.
Mais alors ma question, c'est le, par exemple, pour faire ce rouge légèrement fuchsia, le pinceau, parce que visiblement il y a un demi-litre de liquide, non?
Oui. Donc 400 pinceau, millilitres à peu près, oui.
Donc le pinceau est extrêmement chargé.
Oui, mais le recouvrement de la surface se fait en plusieurs gestes. Là, c'est pas possible de le faire.
Alors, ce que je trouve curieux, c'est qu'il n'y a jamais la marque du recouvrement du pinceau lui-même. Je ne le vois pas.
Avec cette couleur, on ne le voit pas. Avec le Potter's Pink, on ne peut pas le faire. Parce que là, on le voit très fort. Je m'en suis pas rendu compte à l'essai. À l'essai de couleur, mais j'ai essayé de faire une forme, je ne sais plus exactement. Ah oui, une bande horizontale large, et c'était vraiment pas réussi parce que le deuxième trait de pinceau a retiré le pigment que le premier geste a déposé, et ça n'allait pas. Et c'est uniquement en essayant qu'on le sait.
Par exemple, le geste du haut de ce tableau en deux points horizontales.
Oui.
Je parle, mettons, de la première surface plutôt vert jaune.
Oui.
Il y a eu un premier geste, des premiers gestes pour fabriquer ça.
Oui.
Et après, ça, c'est un deuxième geste.
Il y a deux gestes seulement, il me semble. Un geste de gauche à droite dans la partie inférieure et un geste droite à gauche dans la partie supérieure. C'est pour ça que la couleur se croise. Et c'est la superposition des deux traces de pinceau qui crée une ligne plus chargée avec un dépôt assez doux et plus foncé au milieu. Et
Ça ressemble un peu à une ligne d'un avion dans le ciel. Et ça, c'est la superposition des gestes. Et en fonction de la couleur, ça ne produit pas la même chose. Et on a une ligne assez précise, très nette, au milieu, entre les deux surfaces colorées, une ligne droite, horizontale, qui est obtenue simplement par des caches qui délimitent les deux surfaces colorées, et elles se superposent d'un demi-millimètre, et du coup, on a une ligne extrêmement nette.
Et là, du coup, dans celui-là, donc, c'est la voie que tu aimerais plus poursuivre. Donc, du coup, là, c'est deux couleurs. Et en fait, comment tu vas les mettre... comment tu vas les choisir, en fait, ces deux couleurs?
Ces deux couleurs-là, je les ai trouvées par hasard parce que je cherchais le vert olive idéal pour une pièce et j'en ai testé plusieurs. Et sur l'essai de couleurs, je me suis dit que ce rapport des deux teintes était vraiment très beau. Et du coup, j'ai abandonné l'idée initiale et j'ai fait cette couleur-là ici.
Donc c'est en regardant tes tests
que oui, tu t'es oui, dit
qu'il y avait quelque chose à faire avec.
Oui, oui, parce que j'aime beaucoup les tests, je les trouve assez beaux, mais ils ne sont pas assez précis pour être une œuvre. Et donc parfois je me demande comment je peux préserver la beauté de ces tests de couleurs, mais en faire des œuvres.
Du coup, ouais, ça me fait... Donc, du coup, c'est une question que j'avais envie de te poser parce que la dernière fois, quand je suis sorti de ton atelier, j'avais ce sentiment de. Enfin, c'est juste, enfin, c'est cette précision moi, qui me. Qui m'a vraiment interloqué. Quoi. C'est vraiment juste, c'est vraiment le terme en fait. Tout est juste, précis, à sa place. Enfin, tu nous as fait voir en fait des tests où tu dis que ça marche pas. Et en effet, enfin, c'est ce que tu gardes, c'est ce qui est plus juste. Et enfin, je sais pas, je serais curieux de te poser cette question d'où vient cette justesse dans, enfin, on tourne encore une fois, hein, enfin, c'est peut-être ces questions de non-pain, de faire du hasard quelque chose de très précis, cette confrontation, enfin, tout ce qui fait ton travail, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui en ressort avec cette justesse, et en fait, c'est un terme que tu as déjà employé plusieurs fois sur ce côté, oui, et en effet, c'est juste.
Peut-être ça rejoint la question, quand est-ce que c'est fini? Ben, c'est fini quand cette exigence en termes d'équilibre est satisfaite. C'est assez difficile à savoir d'où ça vient, mais ça vient peut-être aussi des peintures que j'aime. Et c'est vrai que j'aime à la fois la précision et j'aime à la fois ce qui échappe totalement. Donc c'est assez paradoxal. Et c'est ça que j'essaye de négocier, c'est une tension que j'essaye de trouver. Parce que quand on fait des tâches à l'aquarelle, j'ai l'impression qu'il faut être très précis pour dire quelque chose. Sinon, ça peut être du n'importe quoi. Ça peut assez facilement ne pas être quelque chose de fort. Et ça vient sans doute de l'idée de départ aussi de modifier l'usage de l'aquarelle, de la sortir de son registre décoratif, de pratique de loisir. Et oui, lui faire dire des formes abstraites assez précises, c'est un peu un défi que je me suis lancée.
Ces formes géométriques, c'est ce qui permet aussi de mettre en avant tout ce hasard.
Oui.
C'est ce qu'on s'est déjà dit. Et au-delà de ça, enfin, ouais, c'est pareil, c'est ce que je t'expliquais aussi la dernière fois, c'est que qu'une couleur correspond à une forme, moi ça m'a enchanté, quoi, et c'est vrai. Enfin, du coup, tu nous avais fait voir la bande bleue, et donc du coup, tu avais fait une bande horizontale, tu avais fait quelque chose peut-être de plus en all-over, si je m'en souviens bien.
Oui, oui.
Et en fait, c'est cette bande verticale qui est tout à droite du tableau, qui fait la largeur du pinceau, qui va marcher. On n'a pas parlé de tes formats aussi, qui sont tout le temps les mêmes.
Donc, oui, c'est
vrai.
Du coup,
c'est des 73x110.
C'est ça.
Et du coup, c'est un peu toutes ces questions-là. Tout ce côté, cette précision de la couleur avec la forme sur un format défini. Enfin, ça fait, mine de rien, ça laisse quand même à la fois une grande marge d'expression et à la fois quelque chose de très rituel, peut-être pour reprendre les termes de Jérôme. Et encore une fois, pour ce côté rituel, moi je vois quelque chose de très japonisant aussi, quelque chose dans le sens de faire les choses. Je ne sais pas si vous avez vu l'Empire des signes, l'Empire des sens, des signes de Roland Barthes, où il parle en fait de son voyage au Japon, où tout est ritualisé en fait. Le jeu peut être ritualisé, la nourriture est ritualisée. Enfin, et je pense que s'il y a rituel chez toi, c'est peut-être plus dans cet ordre-là.
Tout à fait, oui. Dans ce sens-là, ça me parle beaucoup même. Et de cette attention aux choses, de cette présence. Et cet état assez particulier de concentration et de disponibilité. Pour revenir au format, en fait, il n'y a pas autant de possibilités que ça si on veut travailler sur papier aquarelle et réaliser des grands formats, parce qu'il y a des rouleaux qui ont certaines dimensions. Je pourrais faire des pièces deux fois plus grandes, mais le dessin des formes à l'intérieur serait à la même échelle que dans les pièces qu'on voit ici à l'atelier. Et je trouve que le pouvoir formel, il est plus grand si c'est dans le format intermédiaire, on va dire. Et puisqu'on tourne toujours un peu autour du même format, en pensant au contexte de l'exposition, je me suis dit que ce serait mieux de décider d'un seul format pour avoir une sorte d'unité. Comme le but ou l'idée de départ était de produire des pièces aussi différentes que possible les unes des autres. Et pour peut-être mieux mettre en valeur ces différences, je me suis dit qu'un seul format, ce serait bien. Il est arbitraire, il résulte de la largeur du rouleau et d'une hauteur que j'ai décidée intuitivement en déterminant un rapport que je trouvais juste. Et après, j'ai pris la mesure et c'était les 73 cm.
Oui, elles sont différentes, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment, finalement, que ce soit tout le même format, on s'en fiche un peu, en fait, tu l'oublies très rapidement, en fait, parce que chaque pièce est vraiment différente. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui marque ou qui bloque, au contraire. Ça met en avant, ou tout du moins, ça précise le propos. Et ça renforce cette justesse. Et du coup, après, tu parlais du coup de sortir en fait de ce côté décoratif de l'aquarelle. Et du coup, ça me fait penser à cette question du plaisir.
Ah.
Et donc, du coup, ce fameux plaisir.
Ben, justement, comme j'ai posé la question la dernière fois, aujourd'hui, j'ai vu où il pouvait y avoir du plaisir dans le fait de te faire une aquarelle. C'est d'avoir très envie de la faire déjà et d'être concentré, d'exécuter les gestes, que ça se passe bien. Et en fait, ça repose sans doute sur un malentendu chez moi. C'est-à-dire que le plaisir de peinture serait entre le pinceau et la feuille, et je pensais que les peintres qui peignent par exemple avec un pinceau sur une toile, qu'ils auraient plus de plaisir parce qu'ils peuvent peindre des heures, et moi ça dure très peu de temps. Mais cette mise en route et cet encadrement du procédé, il peut y avoir du plaisir aussi. Il peut y avoir du plaisir à regarder cette forme émerger, de voir naître le dessin. Ça, ça peut être très beau. Et ça peut être très horrible quand ça a l'air d'être bien commencé, quand ça se gâte au fur et à mesure. C'est pour ça que...
Oui, parce que tu ne peux plus intervenir.
Non, je ne peux rien faire.
Donc, on va pouvoir l'échec...
Oui, se produire. Et il faut attendre, en plus.
Donc là, c'est quelque chose de supplice.
Oui, c'est horrible.
C'est le contraire.
C'est pour ça que je suis heureuse de ne plus vivre à l'atelier, parce que comme ça, je peux fermer la porte et laisser faire, surtout quand c'est raté. Et quand je vivais ici, c'était très difficile, parce que même en recevant des amis le soir, bah, l'échec était toujours là. Donc le fait de pouvoir prendre de la distance, ça fait du bien. Mais quand ça se passe bien, c'est vraiment un très, très grand plaisir de voir les formes apparaître. Ou quand on voit que c'est pas encore ça, mais que ça va dans le bon sens, quand ça donne envie de continuer, c'est bien.
Est-ce que là, pour expliquer en fait ce fameux cercle qu'on voit, pour l'instant on voit rien, hormis le reflet de l'atelier en fait.
Oui,
donc, du coup,
oui.
On ne sait pas du tout, enfin toi tu sais, parce que tu as déjà tes autres expérimentations, mais enfin, moi je ne sais pas du tout ce que ça va donner, quoi. Enfin, oui. C'est assez fou comme...
Moi, je pense qu'il n'y aura pas de ligne verticale parce que par rapport à l'expérience que j'ai, elle serait déjà là, à ce stade-là du procédé. Donc, peut-être que ça va totalement tomber à plat et ça sera juste une surface un peu structurée de stries. Il faudrait recommencer. Ou peut-être que ça sera quelque chose de délicat et de juste. C'est uniquement demain.
Après, j'imagine la moindre chose qui tombe,
oui.
Un fil, ça se...
Oui.
Parce que quand même, la surface, elle est à l'air, hein, totalement à l'air, et il peut y avoir une poussière, il peut y avoir quelque chose qui tombe là.
Oui.
Et d'ailleurs, je ne vois pas beaucoup, enfin, je n'en vois pas.
Donc, de poussière.
Oui, ça veut dire qu'on est sous vide, là, en ce moment, dans l'atelier. Enfin, ça veut dire...
Non, En effet, je nettoie assez régulièrement pour qu'il y ait le moins de poussière possible, parce qu'elle est très embêtante, parce qu'elle influe sur le motif.
Bah, complètement.
Et parfois, il y a des tout petits poils de pinceau que je ne peux pas retirer, qui après sont collés sur la feuille. Ce n'est pas très, très grave, mais certaines bloquent le motif quand les poils de pinceau sont perpendiculaires au développement, au retrait de la couleur, ben ça fait une marque assez forte. C'est pour ça, dès que la peinture est appliquée, je pars à la chasse des poils de pinceau avec la fameuse pince à épiler. J'en retire le maximum. Après, il ne faut pas en faire trop non plus, parce que à force de vouloir la perfection, des fois on crée de l'accident et ça gâche tout aussi. À un certain stade de séchage, il ne faut plus rien retirer, parce que sinon ça crée des marques assez fortes et c'est pire que si on laisse. C'est tout un jeu de savoir quel degré d'imperfection on peut accepter et où est-ce qu'il faut être assez pointilleux. Tout ce qu'on peut retirer au départ, oui, et après, intervenir le moins possible et surtout pas essayer de sauver quelque chose qui... Ne pas essayer de sauver, parce que c'est là qu'on le rate totalement. Parce que si on ne sauve pas, il y a encore une chance que ça évolue positivement, alors que si on intervient, généralement, c'est tout détruit.
C'est, ouais, je pense que pour tout peintre, l'accident, donc travailler avec l'accident, quoi. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Et c'est une belle question, oui. Enfin, c'est où est-ce que tu t'arrêtes quand t'en fais trop? Est-ce que...
Oui.
Ouais, en effet.
Oui. Par exemple, parfois, une petite éclaboussure sur une partie blanche, mieux vaut la laisser que d'essayer de l'aspirer avec un petit bout de
de papier absorbant, parce que le risque de trembler est tellement grand qu'il vaut mieux laisser si c'est acceptable, ou recommencer si c'est pas acceptable. Et oui, pour cette question du plaisir en peinture, le fait de devoir recommencer beaucoup, ça peut avoir un côté un peu fatigant, parce que à chaque fois que je fais l'aquarelle, j'y crois à fond, et après je vois mon espoir se décomposer, et c'est assez rare en fait que je retiens quelque chose du procédé, c'est-à-dire qu'il faut s'y mettre au moins une dizaine de fois en moyenne pour en retenir quelque chose.
C'est ça, c'est cette pratique et cette répétition qui te permet aussi de t'enlever en fait de la pièce ce côté, ce qu'on disait au début, où le geste de l'auteur, tu veux disparaître à l'intérieur du travail, et ça passe aussi par cette répétition.
Oui.
de dessin, de forme.
Oui.
Jusqu'à arriver à dire bon, c'est ça que je veux, sans. Enfin, c'est une façon un peu d'éluder au fur et à mesure de l'œuvre, en fait, ce que tu veux faire.
Oui, tout à fait.
Et je pense que cette répétition est quand même assez intéressante aussi. Et on en revient à ce côté, il y a cette répétition pour avoir ce que tu veux précisément, et on reste quand même dans le domaine de la tâche. C'est assez fascinant quand même, parce que c'est limite réussir à maîtriser quelque chose qui est... qu'on ne peut pas, quoi.
Et dans la répétition, ça va toujours vers l'épure. Ça ne va jamais dans le sens opposé de charger davantage. C'est cibler un élément et essayer de le mettre en valeur en écartant d'autres choses qui paraissent moins essentielles.
Une forme d'épure.
Oui.
Je trouve ça assez beau, ouais. Épuré le chaos.